Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast Success Story coloré. Je rappelle que l'interview est enregistrée chez Kiss Kiss Bank Bank, dont un des piliers est la lutte contre toute forme de discrimination. Comme d'habitude, on s'abonne à la page Burnout sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music aussi, hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, 5 étoiles, c'est très bon pour le référencement. Alors, pour ce nouvel épisode de Burnout, j'ai l'immense honneur de recevoir un artiste que je respecte beaucoup. Il est acteur, humoriste, producteur, MC, réalisateur. Il a inventé son propre style de stand-up. C'est un roi de l'impro, toujours copié, jamais égalé.
C'est gentil.
Il a réalisé un chef-d'œuvre qui figure parmi mes films préférés, Nous trois ou rien.
C'est gentil.
Et il revient avec un nouveau spectacle, Dragon. Kéron, bienvenue sur Burnout.
Je parle ?
Ouais,
je crois que t'es le mec du rail encore. J'étais chaud pour le déhancher.
Bon, non, le
merci
c'est
pour l'invite. Merci, c'est très très gentil, c'est très flatteur.
Bah,
je ne sais jamais comment prendre des compliments. Donc j'ai juste merci, c'est gentil, hein, samouraï.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Un plaisir.
Et tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression que dans l'histoire de Burnout, pour chaque invité, j'ai une anecdote. Et moi, je dis tout aux auditeurs.
Vas-y.
Quand j'étais en radio, avec l'équipe, on avait essayé de te recevoir. Et bah, je parlais à ton attaché de presse, je crois que c'était Ikram à l'époque.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est encore elle ou pas. Et elle m'a dit non, en ce moment, ce n'est pas possible, blablabla. Bref, elle m'avait sorti un truc qui était sûrement justifié, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, on avait lâché l'affaire avec l'équipe. Et quand j'ai lancé Burnout, et là, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, ton nom revient souvent dans les invités que les auditeurs me poussent. Mais pourquoi tu ne proposes pas Kéron ? Pourquoi tu ne proposes pas Kéron ? Je fais non, si c'est pour me manger une crampe encore, ce n'est pas la peine. Je fais tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. Et je t'ai dit, bon écoute, je t'ai demandé il y a 4 ans, je retente, et tu m'as dit, tu sais quoi, je vais venir.
Oui, oui, en plus, alors pour la défense des attachés de presse, c'est pas de leur faute, ça dépend des périodes aussi. Parfois, tu sors d'un quand j'ai fait un film, j'ai fait 60 interviews en un mois, quand je sors, je suis lessivé, j'ai même plus rien à dire, tu vois, donc j'ai besoin d'une pause pendant longtemps, il faut toujours un projet, et puis il faut de la fraîcheur, tu vois, il faut être intéressant.
Oui.
Donc pour ça, il faut être intéressé, il faut avoir les yeux qui brillent pour passionner tes spectateurs, tes auditeurs, leur donner envie aussi. Et si moi, je suis terne et je suis explosé et que je suis en train de répéter les mêmes trucs, c'est sûr que ça va pas être passionnant pour eux.
Je comprends. Et puis quand c'est hors promo, en général aussi, c'est pas intéressant pour les artistes. Mais en tout cas,
après,
merci.
Après, moi, je suis tout le temps en promo parce que j'ai choisi un style de spectacle où, tu vois, j'aurais pu faire... Le cursus traditionnel, c'est-à-dire tu fais un spectacle, tu rôdes, après tu fais des grosses salles, après tu fais une énorme tournée, après tu reviens à Paris, tu fais les dernières dans des très très grosses salles, après tu le sors, à l'époque c'était DVD, maintenant c'est Capta plateforme, et ensuite je m'isole et j'écris un nouveau concept, un nouveau spectacle.
Ouais.
Moi j'ai choisi de faire autrement et d'être tout le temps sur scène et du coup de jouer dans des petites salles mais à l'année.
D'accord.
Donc j'ai jamais quitté Paris pendant plus de un mois. Depuis 2010.
C'est énorme.
Ça fait 14 ans que je joue non-stop sur Paris et je fais aussi de la tournée, mais ouais. Paris, c'est vraiment ma base, c'est mon fief. Donc, je suis tout le temps un peu en promo, en fait.
Si c'est Paris, il a dit ça.
Et pourtant, je suis pas un Parisien de PSG et tout. Hein.
Ouais.
Tu vois, j'aime bien certains joueurs et je leur souhaite de gagner comme à tous les autres clubs, mais il y a un truc que j'aime bien. J'aime jouer à Paris parce que j'habite, en fait. J'aime jouer tout simplement. Si j'habite à Marseille, je joue à Marseille.
On va y revenir. Alors, tu sais, sur Burnout, comme le veut la tradition, on commence systématiquement par échanger sur l'enfance de l'invité.
Okay.
Est-ce que tu te souviens du petit Kéron au collège ou en primaire? À quoi il aspirait?
Il y a eu plusieurs phases.
Okay.
Il y a eu le petit Kéron quand il arrivait. Alors, primaire ou maternelle, on commence comme tu veux.
Primaire, collège.
Ok, primaire, collège, donc je parlais déjà français.
Ouais.
Ça y est, j'étais un petit français. Que j'ai eu de la phase en maternelle où j'arrive et où je parle pas la langue et où moi je suis né en Iran, tu vois.
Oui, c'est vrai que les gens le savent pas forcément. Alors pour ceux qui vont te découvrir, ça m'étonnerait. Tu es arrivé d'Iran et tu avais quoi, 2 ans?
Ouais, 2 ans et quelques, ouais. Donc
ouais.
À la maternelle, quand je rentrais le soir, je raconte souvent l'anecdote, mais comme mes parents me demandaient comment ça s'était passé, je disais ils sont sympas, mais ils parlent pas bien, quoi. Parce que comme je comprenais pas ce qu'ils disaient, pour moi c'est eux tous qui parlaient mal. Je n'avais pas compris le concept de langue. Tu vois, je comprends pas quand ils parlent, ils sont gentils, ils ont l'air, hein, mais bon, les pauvres, ils maîtrisent pas, quoi, tu vois. Et après, j'ai commencé à apprendre à parler français, etc. Et je m'exprime beaucoup par dessin quand j'étais petit.
Okay.
Donc, mon dialogue avec les autres, toute la maternelle, c'était les dessins. Primaire, là, ça va, je suis un petit français comme tous les autres, donc il n'y a pas de problème. Et comment j'étais? J'étais rêveur, j'étais très bavard. J'ai toujours créé du lien, très bavard, sur tous mes carnets, tout le temps bavard, c'est un truc, mes parents devenaient fous.
Malgré la barrière de la langue au début, alors après, je pense que c'était plus...
Dès que j'ai commencé à parler français, ouais. J'étais vraiment bavard, parlais à tout le monde, je parlais aux élèves, aux profs, on mettait en fond de salle, ça ne servait à rien, on mettait à côté du prof, je le parlais, je le perturbais, ça ne servait à rien. Il y a une prof qui a réussi, Madame Araya, je l'embrasse, il regarde, c'était ma prof de français, qui me faisait... faire le cours en accéléré, une fois que j'avais compris, pour pas m'ennuyer, elle me faisait faire des dessins dans le coin de la salle.
D'accord.
Donc je dessinais les autres élèves. Et
la caricature.
Exactement, je faisais ça et au moins je gardais un lien dans la classe avec elle et tout. Donc voilà. Mais j'étais très, très ouvert d'esprit, je parlais avec tout le monde. J'essayais d'être drôle parce que j'avais pas grand chose.
Et est-ce qu'il y avait un métier, tu sais, parfois on a envie d'être pompier.
Ouais, j'en avais plein, bien sûr. Quand j'étais petit, mes premiers souvenirs, c'est journaliste, mais c'est des trucs bidons pour faire plaisir à tes parents.
Ouais.
Toi, tu dis cardiologue, ton père est généraliste, tu dis cardiologue, c'est un peu mieux que lui. Lui, il est fier, tu vois. Donc, je voulais être journaliste, ou non, avocat au début, après journaliste. Et puis après, j'ai découvert le basket, j'étais un fan de basket. Toutes mes années au collège, j'étais à fond dans le basket, je jouais de basketteur. Aucun sens, 1m2, aucun sens.
Et tu vois, quand on voit Samy, le comte de Boudherbala, il n'est pas très grand.
Ouais, mais il est plus grand que moi quand même. Okay. Non, j'étais nul. Bah, Samy, il est doué, tu vois. Il a quand même été au collège aux États-Unis et tout. Il avait un niveau. Mais quoique pas décelé en France, tu vois, c'est marrant. Et après, j'ai voulu faire du rap. J'ai fait du rap toute mon adolescence. Après, c'était de mes 15 à mes 20 ans. J'avais un groupe de rap, on faisait des disques, on faisait des concerts, on était carré, tu vois, on était organisé vraiment et tout. Et ma mère m'a appris, il y a quelques années, elle m'a dit, mais tu sais que j'ai écouté une interview que tu as fait, où on me demande ce que tu voulais faire comme métier, tu as dit avocat, truc et tout, mais tu as oublié quand tu étais à la maternelle, le premier métier, tu as dit clown.
Ah ouais.
Je veux être clown. Je dis, waouh, incroyable, je suis revenu à la base.
Revenons sur ton... on va dire comment ton voyage, j'appelle ça voyage, mais c'est pas peut-être le bon terme, d'Iran à Paris. Est-ce qu'on peut parler...
Ouais, c'était pas une croisière.
Ouais,
c'est pas un voyage.
Est-ce qu'on peut parler d'un déracinement malgré le jeune âge? Parce que,
bien sûr.
Ouais.
Même si moi, je l'ai pas senti, mais j'ai des bribes.
Ok.
Ça veut dire j'ai des souvenirs. Parce qu'en fait, avant de venir en France, on a vécu en Turquie,
okay,
dans un foyer pendant un an et quelques.
Quand même.
On était 15 dans un tout petit appartement, tu vois. Et c'est de là que chacun s'est séparé. Donc, moi, mes parents, ils voulaient tenter l'aventure en France. Donc, on a demandé l'asile politique en France. Mais j'ai un oncle qui est parti en Suède, qui est en Allemagne, qui est parti aux États-Unis, etc., dans plein de pays différents. Occidentaux, tous, évidemment. Et donc, nous, on est venus en France. Et moi, j'ai pas connu l'Iran. Si tu veux, le déracinement, je l'ai vécu en observant mes parents.
Ok.
Parce qu'on n'avait pas les mêmes coutumes que les autres, on ne mangeait pas la même chose, on n'avait pas les mêmes activités à la maison. Moi, je suis allergique aux manifestations. J'en peux plus.
D'accord.
Tu vois, même là où j'habite, il y a souvent des manifestations qui démarrent, qui sont en bas de chez moi. Waouh, je peux plus. Ouais. J'en ai trop bouffé quand j'étais petit, j'ai trop porté des drapeaux, j'ai trop crié « Liberté, égalité pour tout le monde !»
Tu fais un blocage du
coup. Je fais un blocage, faut pas me parler de manifestation, faut pas me parler... Tu vois, je fais un blocage d'imprimerie, c'est-à-dire des flyers, des tracts distribués aux gens dans la rue, truc, j'ai vécu ce truc-là, j'ai vécu le déracinement de mes parents, mais jamais en aigreur, toujours avec une volonté d'aider les gens là-bas, et une fois qu'ils ont pris conscience que c'était plus possible d'aider là-bas, qu'ils étaient trop loin, que le combat était trop dur, ils ont eu la volonté d'aider ici. Et là, ils sont mis dans l'associatif. Et pareil, j'ai revécu les manifestations pour les associations en banlieue parisienne, Stein, Pierrefitte, les fêtes de quartier, les kermesses, tous ces trucs-là, les tracts, les pétitions, les colloques, tout le truc associatif. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Ouais. Franchement, donc merci à mes parents pour cette partie de ma vie. Mais c'est plus comme ça que j'ai compris qu'on venait pas du même endroit que les autres.
Et ça représente quoi aujourd'hui l'Iran pour toi ?
C'est la terre de mes parents. Okay. Et c'est une terre pleine d'histoire. C'est une terre où naît une énorme frustration, où ça devait être un pays libre. Ils ont réussi en 79 à virer un dictateur. Et il y en a un autre qui est venu à la place qui était bien pire. Et depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, l'Iran, c'est catastrophique en termes de liberté individuelle. Là, mon prochain projet parle de ça. C'est une catastrophe permanente. Les gens au pouvoir sont d'une hypocrisie folle où ils obligent le peuple à suivre des règles qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Le droit des opprimés, le droit des femmes là-bas, c'est une catastrophe sans nom. ce peuple mérite mieux, parce que tous les gens que je connais qui ont été en Iran, quand ils reviennent, ils disent « Putain, mais c'était mon plus beau voyage ». C'est un truc qu'on entend souvent.
Mais justement, j'avais une question par rapport à ça, Kéron. Tu as une casquette de réalisateur aussi. Ouais. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de réaliser un documentaire qui met en lumière les côtés, le côté noble de la civilisation perse, de l'Iran? Il y a des très grands philosophes, des très grands Bien scientifiques, sûr. Des architectes. Enfin, il y a un paysage de malades. Et pourtant, ce qu'on... c'est pas l'imaginaire, parce que ça serait être un peu méprisant, mais dans l'esprit des pays occidentaux, qu'est-ce qu'on retient? Le droit des femmes. Et encore une fois, je critique pas ceux qui combattent ça, bien
parce que c'est actuel. Parce que d'un côté, tu me parles d'une civilisation d'il y a 3000-4000 ans, tu parles de l'Empire perse, et de l'autre côté, tu parles de ce qui est subi et vécu au quotidien. Donc on pourrait faire de la publicité. C'est comme tu dis, aujourd'hui on parle de la Turquie, on parle d'Erdogan, mais l'Empire ottoman avec, tu vois, ouais. On peut, mais le quotidien des gens là, c'est maintenant. Et ce qui se passe en Iran maintenant, la régression, elle est folle. Il faut imaginer qu'à l'époque où mon père est en prison, parce qu'il lutte contre le Shah d'Iran, et je ne suis pas en train de dire que le Shah c'est bien, hein, c'était déjà un tyran, mais à cette époque-là, les femmes ont le droit d'être en jupe dans la rue. Il y a une régression. Tu vois, donc ouais. Avant, il y avait un dictateur, il y avait un tyran. Aujourd'hui, c'est mille fois pire. Et l'urgence pour le peuple iranien, je pense qu'elle est là. Mais moi, encore une fois, je suis un Français d'origine iranienne qui, en écoutant parler ses parents, a eu envie de leur rendre hommage à leur parcours. Et je me suis un peu intéressé, mais je ne vais pas te mentir, je ne suis pas assidu. Je suis pas en train de regarder les infos sur l'Iran, ce qui se passe là-bas au quotidien, en train de me documenter, de me renseigner, militer, pas du tout, je veux pas faire semblant. Ouais. Moi, c'est à travers mon art que j'essaie d'exprimer des choses, et l'injustice et l'impuissance sont deux sujets qui me touchent. Et j'ai fait Nous trois ou rien qui parle de l'histoire de mes parents, et dans mon prochain projet, il y a une partie qui parle aussi d'un fait divers qui se déroule en Iran. C'est une petite histoire dans la grande histoire que je trouve incroyable. Mais si ça s'était passé au Mali, je l'aurais fait au Mali. J'aurais fait sur le Mali. J'ai pas la volonté de parler de la terre de mes parents. C'est ça que je veux te dire.
Okay.
Je veux pas être un porte-drapeau, ni jouer la carte.
Ou un symbole. Quoi.
Ouais, et puis surtout pas jouer la carte de l'Iranien investi. Parce que dès qu'on m'appelle pour faire des manifs ou signer des pétitions, je le fais pas. Ouais. Tu vois, donc je veux pas avoir ce rôle-là et faire semblant de. Parce que voilà, il y a des gens. Tu vois, les trucs sur l'Iran, ça arrive. Enfin, c'est un pays qui est en crise depuis des années, c'est pas nouveau. Et donc tous les deux mois, il y a un fait divers. Et on m'écrit pour me dire, on t'a pas entendu parler de l'Iran. Ouais, et je dis, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de parler de l'Iran. Voilà, je parle pas de l'Iran, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je parle de la Somalie, mon sujet c'est la Somalie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, et donc les gens, ils peuvent vite s'approprier une personne qui prend position ou qui a juste un avis, qui l'exprime une fois en promo, et ensuite venir...
Ça me fait rappeler, je la cite assez régulièrement, mais on avait un peu imposé d'être porte-parole de toutes les banlieues. Je pense à l'écrivaine Faiza Ghen.
Ouais, parce qu'elle a fait un livre,
demain,
bien sûr,
qui parle d'une fille dans un quartier populaire classique, quoi. Et du jour au lendemain, on lui a un peu limite forcé. Elle a dit non, mais moi je suis le porte-parole de rien du tout. Je suis une jeune femme qui écrit et basta.
Bien sûr. Et puis ma vie a changé. Déjà, un, aujourd'hui, j'habite plus en banlieue. Deux, par rapport à l'Iran, les seuls Iraniens que je connais, c'est mes parents. Je le dis souvent, mais je ne connais aucun gros mot en iranien, en farsi, que je ne parle qu'avec mes parents. J'ai pas un cousin avec qui je rigole, on se dit des insultes et tout. J'ai pas ça.
Moi, je sais dire Bolanchon Bechin.
Bolanchon Bechin. Ah, Bolanchon Bechin. Ça veut dire lève-toi, assieds-toi. Voilà, mais c'est pas une insulte.
Non.
Mais tu me dis une insulte, je te jure, je peux pas savoir ce que c'est. Je ne connais pas les insultes iraniennes. Donc, j'ai pas ce truc non plus avec l'Iran de.
Ouais.
Et je veux pas me faire passer pour un réalisateur iranien avec toute la difficulté que ça comporte. Parce que eux, les pauvres, c'est vraiment des héros. Les mecs, ils tournent en cachette dans des voitures, ils se prennent la tête, tu vois, là-bas, il y a une censure.
Aujourd'hui, t'as le droit d'y retourner, mais il y a un risque, j'imagine, pour toi ou tes parents.
Eux, ils vont pas me dire de pas y retourner.
Ouais.
Mais jamais je vais y retourner. J'ai aucune confiance. Aucune confiance, pas du tout. Donc.
Bon, fermons la parenthèse de ce déracinement, mais je pense que c'est important d'en parler. Revenons justement à ton parcours. À quel moment...
Tu peux te dire un truc?
Bien sûr.
Parce que tu m'as réveillé un truc quand tu as dit déracinement. En réalité, je pense que ça va plus loin. Le fait de ne pas venir d'ici, ce n'est pas un déracinement vis-à-vis de l'Iran, c'est qu'en fait, je ne me sens déraciné nulle part, moi. Ni en Iran, ni en banlieue parisienne où j'ai grandi, ni à Paris où j'habite aujourd'hui. Je n'ai pas de terre où je me dis ça, c'est ma terre. Je suis lié aux gens. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi je fais autant de five. Autant j'adore jouer au five, mais comment je m'en bats les reins de supporter un club de foot. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire que j'ai un joueur que j'aime bien son style, je vais lui souhaiter d'être heureux, donc je vais supporter son club. Il change de club, je vais changer de club avec lui. Je m'en fous, en fait.
Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Alors, je vais encore faire écho à une autre autrice que j'ai reçue, Fatima Wasak, qui a écrit un livre, Écologie pirate, où elle cite un sociologue, je ne sais plus lequel, qui prouve que le bonheur passe par l'attachement à une terre.
Okay.
Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est que...
Moi, c'est l'inverse.
Pas... Okay.
Moi, c'est l'attachement aux humains.
D'accord.
Voilà. Et... Je me rappelle peut-être une phrase que j'avais sortie en... Attends, pour que je me cite moi-même en rap. Waouh, c'est une première.
Exclu burn-out, les amis.
J'avais 15 ans, je crois. Dans un texte, je disais pas de signe, je sais pas quoi, pas de signe de ralliement, car mon message s'adresse aux humains et pas aux bâtiments. Donc, même quand j'étais jeune, quand je rappais, quand j'habitais à Pierrefitte, je disais jamais Pierrefitte. Je m'en battais les reins de Pierrefitte. Pierrefitte, c'est une ville. Ouais. C'est les gens qui sont là, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mes potes, c'est les gens avec qui je travaillais, c'est eux qui comptent. Et c'est pareil, demain, tu nous prends tous, tu prends tous les gens que j'aime. Tu nous mets à Meudon, je vais être à fond pour Meudon, ouais. Tu vois. Donc
il y a pas cet attachement.
Et je pense que ça commence avec ce déracinement de savoir qu'on habitait en Turquie et puis ensuite on habitait quand j'étais petit, ma mère et moi on était en foyer à Lyon, mon père en région parisienne pour nous faire venir. Donc j'étais pas lyonnais, j'habitais à Villeurbanne, tu vois. Après je suis arrivé à Paris, je suis pas parisien, je suis stanois, je suis à Stain, après je suis pierrefittois, après j'habite à La Courneuve, après je suis à Paris et tous ces voyages et dès petit, j'ai acquis un truc que mes parents m'ont inculqué, c'est que rien n'est jamais acquis, justement. On peut se retrouver du jour au lendemain à tout quitter. C'est parce que moi, avant d'arriver en France, mes parents me disent qu'ils ont déménagé une cinquantaine de fois. Ça veut dire qu'ils sont dans un appartement, il y a une réunion, ils attendent le coup de fil ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint le gaz, on prend le petit, on claque la porte et on part. Parce que si le coup de fil ne vient pas, peut-être que le mec a oublié, il y a une chance. Il y a 99 chances pour que le mec soit fait arrêter. D'accord. On n'a pas de marge de manœuvre avec ce genre de risque. Donc le fait de toujours être en mouvement, de se dire tout peut s'arrêter n'importe quand, bah, ça t'oblige à te fixer sur des choses importantes qui en réalité sont les humains. Parce qu'une terre vide, on s'en fout en fait.
Oui.
C'est l'autre, la connexion elle vient de l'autre. Le sentiment, la joie, la tristesse, la peine, la trahison, le déchirement, la nostalgie, ça vient de l'autre en réalité.
Ouais, je vais pas ouvrir la parenthèse avec un conflit actuel parce que qui justement se bat pour une terre, mais bref, fermons cette parenthèse. Revenons justement à quelque chose d'un peu plus léger, à ton parcours. À quel moment, Kéron, tu t'es dit je veux être humoriste? Ou est-ce que ça a été un cheminement un peu plus
À la base, j'ai commencé par le rap. En fait, je commençais par l'écriture.
D'accord.
Donc à la base, j'écrivais quoi? Bah quand j'avais un ordi qui était nul quand j'étais chez moi, il n'y a que WordPad qui marchait dessus et Paint, voilà. Donc j'ai commencé à écrire, j'écoutais du rap, donc je commençais à faire du rap. Et puis après, plus je progresse dans le rap, plus je me dis, putain, c'est possible d'en faire et d'en vivre. On fait un disque, on fait des concerts, on a des propositions de signature et tout. Donc je me dis, c'est possible. Et puis le groupe que j'avais se dissout. Et parallèlement à ça, je découvre le stand-up. Je découvre Jerry Seinfeld, Richard Pryor, Chris Rock, Dave Chappelle, etc., etc., Eddie Izzard. Plein d'humoristes.
Donc des légendes d'humour américain.
Et je me dis, putain, j'ai envie de faire ça. Et puis je tente, tout simplement. J'ai la chance de connaître à ce moment-là Yacine Bellous, qui fait partie de Jamel Comedy Club. Donc j'ai la chance de le voir jouer sur scène, de voir la saison 1 dans la salle d'enregistrement, de voir les artistes. Et puis du coup, moi j'ai toujours eu cet esprit d'entreprendre. Donc je me suis dit, c'est quoi? La question, c'est pas... Je voulais pas devenir humoriste, je voulais faire un spectacle avec du rap, du slam et du stand-up. Ça commence comme ça. Et puis encore une fois, comme tout n'est qu'une question d'humain, bah, je me rends compte que le rap, c'est de plus en plus difficile seul parce que le groupe s'est dissous. On n'est plus que deux. Eux, ils sont de leur côté. Nous, on n'est plus que deux et on arrive... C'est moins évident. Et en même temps, le stand-up, il y a plein de scènes ouvertes. Quand moi, j'ai fait Jamel Comedy Club, bah, j'ai un tampon qui me permet de... C'était pas comme aujourd'hui où il y a 60 000 Comedy Club au mètre carré, tu vois. À l'époque, il y avait 5 Comedy Club, il fallait se taper. Donc quand t'arrives, tu dis, bah, moi, j'ai fait Jamel Comedy Club. Bah, avec plaisir, viens jouer. Donc je jouais, et puis à force de traîner avec plein d'humoristes, plein de potes, bah, je lâche un peu le rap, et puis je lâche beaucoup le rap, et puis j'abandonne le rap, et puis je mets de plus en plus dans l'humour. Et c'est en étant dans l'humour que on dit, ah tiens, il y a un plan écriture, ah j'aime bien, ah je fais des plateaux. Putain, je commence à gagner plus de 800 euros par mois avec les plateaux. c'est pas mal. Ouais. À côté, je peux faire ça. À côté, j'ai ça, j'ai encore mon taf. Et en faisant ça, j'arrive à 2-3 000 euros par mois. Et puis, la bascule se fait tout doucement. Et un jour, tu te dis, attends, mais je gagne plus en étant sur scène et je prends plus de plaisir que... Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai jamais eu...
C'est pas du jour au lendemain
non,
avec un sketch.
Non, pas du tout. Ça s'est fait vraiment avec le temps.
Tes parents ont fait des sacrifices, hein. On en a parlé tout à l'heure. Comment ils l'ont pris quand tu leur as dit, bah, en fait, moi, je veux pas suivre un schéma classique. Je veux être dans le show business. Hein. Je caricature un peu, mais...
On commence par le rap, déjà. Parce que nous, toute cette phase-là, elle s'est faite avec le rap. Bah, c'était catastrophique. Je le dis souvent, mais mes parents, ils ont bac plus 8 chacun. Moi, j'ai arrêté la semaine du bac. J'ai pas mon bac, j'ai pas passé en fait. Donc c'était très très dur pour eux, tu vois. On est très dans les études dans ma famille. En plus, je suis leur fils unique, donc t'imagines leur fils unique, la déception immense. Ouais. Et aussi, c'est avec le temps. Les parents s'éduquent aussi. Faut pas que les enfants l'oublient. Quand ils en veulent à leurs parents d'un truc, ouais, mais tu comprends rien. Ouais, mais laisse-leur le temps. Eux aussi, ils savent pas, ils sont juste inquiets pour toi.
Ouais.
Donc, il a fallu les calmer et leur montrer que je savais ce que je faisais, que. En tout cas, je me donnais les moins de mes ambitions. Donc, moi, ils m'ont dit, par contre, très vite, OK, t'as pas passé le bac, t'as fait de la merde maintenant. T'es plus étudiant, quel est ton statut? Tu vas pas rester à la maison. T'es humoriste? C'est-à-dire, tu as des fiches de paye qui justifient que tu es humoriste? Non, donc t'es pas humoriste. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu es? Je sais pas, va travailler déjà. OK. Donc, je suis animateur. Après, je suis veilleur de nuit et en même temps. Le matos c'est trop beau, j'ose pas le. Et en même temps, par exemple, moi, des gens savent pas, mais à l'époque du Jamel Comedy Club, je bossais à l'hôtel, j'étais veilleur de nuit.
D'accord.
Je suis au Jamel Comedy Club, je fais le malin et tout. Ouais, toi, ouais. Tu parles, mais, excuse-moi, bah, rire, blague et tout. Je suis sur scène, je me la raconte, je pose le micro et je vais à l'hôtel et bonsoir, oui, une chambre pour deux, oui, avec plaisir. On vous a vu quelque part? Oh, on me le dit souvent, mais non, rien à voir. Rien à voir, non, on me ressemble et tout, mais c'est pas moi. Ouais. J'avais honte. Mais non, c'était moi, hein. C'était vraiment moi. Donc. À ce moment-là, la bascule se fait. Donc, tu taffes et puis tu es un peu humoriste. Et puis après, et puis moi, quand j'ai signé avec la première production qui m'a signé à l'époque, c'était juste pour rire. Quand ils m'ont signé et que mes parents se sont dit, OK, donc ça veut dire que là, tous les mois, c'est sur l'ancienne, tous les mois, c'est tes parents, quoi. Tu as un salaire qui tombe, qui est payé par une production. OK, tu es humoriste, c'est bon. Et là, ça a commencé. Et puis après, humoriste, c'est un métier qui est pas stable. Après, tu fais un film, tu fais un truc. Pareil, quand je vais les voir pour leur dire, j'ai envie de faire Nous Trois ou Rien, j'ai envie de raconter l'histoire de votre vie et tout. Ils m'ont dit, oh, super. Mais après, ils m'ont avoué qu'ils avaient rigolé derrière. Ils avaient dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va raconter notre histoire à qui? Tout le monde s'en fout alors que non, pas du tout.
Et puis après, il y a un prod qui les appelle, qui dit, effectivement, je voudrais vous rencontrer et tout. Ah ouais? Après, il y a l'Abecti qui vient à la maison. Oh, truc de ouf et tout. Après, il y a l'équipe technique qui leur demande de venir pour valider avec eux des décors, des costumes, des matières, des trucs. Ça s'est passé comme ça et tout. Ils arrivent à une réunion, il y a 20 professionnels. L'autre, il a bossé sur La Môme. L'autre, il a bossé sur je ne sais pas quel film. L'autre, sur Astérix. Et ils disent, OK, ouais, non, le petit, c'est ce qu'il fait, en fait. Ça se fait comme ça, en fait. Il faut les convaincre aussi.
C'est inspirant. Alors, parlons de tes spectacles. Tu veux de l'eau?
Je peux gratter de l'eau.
Oui, bien sûr.
Vous avez une eau extraordinairement bonne.
Elle est bonne, hein, l'eau. Merci.
Je suis très fan de l'eau.
Banque. Il y a sa bouteille juste derrière.
Moi, je bois que d'eau dans la vie. Je te jure, mal, mais je bois que de l'eau. Merci. Quelle marque, ça? Non, c'est gazeux, ça peut pas être ça.
Non, c'est une autre.
Impossible.
Pardon, désolé pour les auditeurs. On a un peu soif, on parle beaucoup. Parlons de tes spectacles.
Comme tu veux.
J'ai reçu il y a quelques semaines le comte de Bouderbala. On en a parlé tout à l'heure. Et en préparant cette interview, ta carrière d'humoriste m'a fait un peu penser à la sienne. En fait, tu es... T'es un précurseur dans l'univers de l'humour et on a l'impression que t'as fait 20 spectacles différents alors que finalement t'en as fait quoi, 3?
Et encore, c'est en vrai j'en ai fait un. En vrai, j'ai un concept.
Mais c'est une bonne chose finalement qui dure aussi longtemps.
Ouais, en fait, c'est pas une supercherie dans le sens où si j'avais vraiment qu'un spectacle que je faisais chaque soir à la virgule près, je pourrais pas fournir 10 minutes d'impro par semaine sur YouTube depuis 6-7 ans comme je fais. Donc... c'est pas genre je dis ouais j'ai plusieurs spectacles alors qu'il y en a qu'un qui bouge pas, c'est le même, il est statique, c'est pas ça. Mais en fait j'ai un concept et ce concept implique de garder une base et de changer le reste. C'est pour ça que je fais pas de captation, tu crois que j'ai pas eu de proposition de plein de plateformes, de plein de chaînes de télé pour capter le spectacle. Évidemment que j'en ai eu, mais je choisis de garder ce socle de allez, 20-30 minutes qui est béton pour pouvoir le jouer à vie. Parce que ce qui m'amuse, moi, c'est de jouer sur scène. Quand je joue dans une salle et que les gens sont trop, trop loin, et genre, je sais pas, je fais une salle, je dis n'importe quoi, allez, je fais une salle de 1000 personnes, et la configuration fait qu'il y en a 400 à qui je ne peux pas du tout parler, pour moi, c'est du gâchis. C'est 400 personnes de gâchées. J'aurais préféré qu'ils reviennent un autre jour et que je sois que avec eux. J'aime vraiment être sur scène. Et je peux pas plus le prouver qu'en refusant de faire des grosses salles à Paris, ouais, et en restant dans mes petites salles. À...
Et c'est pas frustrant?
Non.
Enfin, même
non, ce qui est frustrant,
financièrement, non?
Alors, non, ce qui est frustrant, financièrement, tu fais des choix après.
Ouais.
Mais tu vois, tu peux pas... Oui, je gagnerais sûrement plus, c'est sûr, si je faisais... Si je faisais des zéniths et des salles comme celle-là, mais je serais pas heureux sur scène. Et qu'est-ce que tu cherches dans la vie? C'est ça la question.
Ouais.
Je gagne plus d'argent que ce dont j'ai besoin déjà. Je pourrais en avoir 10 fois plus, mais ça va me servir à quoi? Le plus important, c'est le temps. Et le temps que j'ai sur scène, il est sacré. Quand je suis sur scène, je te jure, je peux avoir tous les problèmes du monde juste avant, mais je les oublie sur scène. Je suis plus heureux que le public. Et parfois, je m'arrête au milieu, ça m'est arrivé de dire... J'aime pas comment vous êtes ce soir. C'est pas, il nous reste 30 minutes là, ça va pas être ouf. Ouais,
donc, sens pas aller de la bonne énergie.
Non, quoi. Donc on va se reprendre tout de suite, parce que moi il est hors de question que je gâche ces 30 minutes. Je pourrais me mettre en pilote automatique et vous faire rire, on passe à autre chose.
Ouais.
Mais non, moi je suis pas, non, moi je veux kiffer aussi. Donc là, vous allez me faire le plaisir de me dire de quoi on parle maintenant. Quand j'ai dit 2 fois de quoi vous voulez qu'on parle, vous avez rien dit.
T'arrives à être innovant quand même tous les soirs.
Bah regarde, j'ai une chaîne YouTube, je sors 10 minutes d'impro.
C'est vrai, j'ai vu.
Je dis par semaine, c'est pas par semaine. Hein. Je les sors par semaine, mais là on a 1 an d'avance nous sur les vidéos. C'est, potentiellement, j'ai plus de 80 heures de spectacle gratuites sur YouTube. Évidemment que tu peux pas plus innover qu'en innovant chaque soir. L'innovation pour moi, ce serait de venir avec un spectacle écrit pour innover via mon public. Ouais. Mais tout le monde le fait déjà. Ils n'ont pas besoin de moi pour avoir ma vie, je la raconte ailleurs, je la raconte au cinéma. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des sketchs de moi qui racontent nos trois rires? C'est pas plus beau au ciné? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des sketchs de moi qui racontent Mauvaises Herbes? C'est mieux au ciné. Là, l'œuvre que je vais raconter, mon prochain projet, c'est pour 2025, donc je reviendrai si tu me réinvites.
J'espère, avec grand plaisir.
C'est une pièce de théâtre, et pareil, c'est un truc que je ne peux pas faire moi dans mon spectacle. Moi, mon spectacle, c'est je m'amuse.
Et dans cette pièce de théâtre, tu vas jouer aussi?
Non, j'écris et je mets en scène.
D'accord. T'as déjà les acteurs?
J'ai fait le casting, je l'ai commencé en janvier, je l'ai fini il y a 2 semaines.
Ok. Il y a des têtes un peu...
Pas du tout. Non. Justement, je suis passé par Instagram.
Ok.
Parce que je voulais je veux révéler des gens. J'ai rien contre les comédiens et comédiennes connues, et tant mieux. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai envie aussi de voir de moi des nouvelles têtes, tu vois, de laisser la chance aussi à plein de gens qui débutent, mais qui sont très forts.
Ça fait du bien, ce discours un peu optimiste et où tu mets en valeur aussi la valeur, enfin la passion avant l'argent. Je l'entends de moins en moins, surtout avec l'effet réseaux sociaux. Donc, merci pour ce,
avec plaisir.
Ce partage. Juste, même si ce n'est pas un nouveau spectacle, mais on va dire que oui. Pourquoi Dragon?
En fait, Dragon, pourquoi? Parce que c'est le titre parfait pour ce spectacle. Au début, il s'appelait Kéron en libre éducation, puis c'était Kéron en observation, puis Kéron en libre éducation, puis il s'est appelé On n'éteindra pas la lumière, puis 60 minutes avec Kéron. En fait, c'est que des titres pour broder, en gros, pour raconter ce que le titre Dragon raconte. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, dans la mythologie grecque, le dragon, c'est un symbole de... C'est un gardien de temple. Dans la mythologie du Moyen-Âge, le dragon, c'est une connotation négative. C'est un animal qui vient attaquer les villageois, etc. Okay. Dans la mythologie asiatique...
C'est Dragon Ball Z.
Oui, bah c'est les vœux. Okay. C'est la science, c'est les soins, c'est le divin. C'est notre mythologie. Dans la mythologie grecque, c'est un gardien de temple, en général. Un gardien de sanctuaire. Qui dit gardien de sanctuaire, dit sanctuaire, donc trésor à protéger. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, sur scène... la scène, c'est le seul endroit où on peut encore rire de tout. Donc moi, c'est mon sanctuaire et j'y tiens à cette scène. Et je suis le garant, pour ceux qui viendront voir mon spectacle, du fait qu'on pourra rire de tout, qu'il n'y aura pas de tabou, qu'il n'y aura pas de censure, je suis garant de cette liberté d'expression totale. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez vous exprimer et on va créer un truc tous ensemble.
Alors, il y a...
Et aussi un truc, dernier truc, c'est que j'avais remarqué aussi que dans les affiches de One Man, c'est un enfer. C'est jusqu'à quelques années, c'était tout le temps les mêmes. C'était ta tête avec
tu vois, un fond rouge, un rideau. Ouais. Un
truc drôle et tout. Donc maintenant, il y en a plein qui innovent, qui tentent des choses. Et moi, j'avais remarqué que l'univers un peu Marvel, manga, animé, super-héros, shonen, il n'était pas du tout exploité en stand-up.
Ok.
Tu vois, donc Dragon, c'est une affiche de Marvel qu'on a fait. D'ailleurs, le mec qui a fait l'affiche, il y a des gens qui pensent que c'est un Photoshop et tout, mais c'est pas une photo. Il m'a modélisé en 3D, le gars.
Elle est très très belle, l'affiche.
C'est lui, le mec qui fait ça. Il a fait le Roi Lion, par exemple, okay, de Disney. C'est lui qui a fait les poils de Simba et Mufasa et tout. Donc il a ce niveau-là, tu vois. Et du coup, cherche ton nom, putain, j'ai problème de prénom, il va m'insulter, ma race.
C'est pas grave, déjà tu le cites, c'est bien.
Pardon, j'ai oublié, j'ai problème de prénom en ce moment, je perds la mémoire.
Pas de soucis.
Et du coup, c'était aussi une façon originale d'amener, tu vois, d'associer mon spectacle à cet univers-là.
Ouais. D'accord, c'est très, très clair. Il faut qu'on rende à César un peu ce qui appartient à César. Moi, j'ai remarqué quelque chose depuis quelques mois, quelques années même, Kéron, et je voulais avoir ton avis, et celui des auditeurs aussi. Donc n'hésitez pas, dans la section Spotify, vous pouvez poser des questions, même directement sur les réseaux sociaux, pour nous partager votre avis. Dès que je regarde des vidéos d'humoristes ou de spectacles sur les réseaux sociaux, ça me fait systématiquement penser au tien. Je pense que tu as créé une tendance, alors dis-moi si je me trompe ou pas, mais le côté impro, interaction avec le public, pour moi, c'est ton ADN. Est-ce que toi, ça te frustre? Est-ce que ça te rend fier ou pas que tu aies créé une tendance et que derrière des très grands humoristes reprennent, pas le flambeau, mais bon, tu m'as compris.
Ouais, ouais. C'est un peu délicat pour moi d'en parler, t'imagines, parce que la posture, elle est pas évidente.
Je comprends, mais on va...
Mais sincèrement, ouais. Très sincèrement, en fait, t'es flatté si on te cite.
Voilà, et moi je trouve qu'on te cite jamais.
Donc c'est pour ça que je peux pas être flatté. Après, je peux pas m'étaler. Et si je reste sur le « putain, mais cette question-là, elle est trop originale, j'avais vu aucun humoriste la poser, je l'ai posée en premier, je l'ai mis sur Internet, et tu la poses », le mec me dit « oui, mais t'as pas inventé cette question ». Je dis « oui, mais non, j'ai pas inventé ces mots-là, mais cette question-là, toi, tu l'avais jamais vue ailleurs, en vrai ». C'est un combat qui est trop difficile d'aller voir chacun pour essayer ouais. Et puis je ne veux pas venir m'approprier l'impro, c'est pas à moi, mais c'est sûr que le fait d'en faire un spectacle entier sur toute la durée, quand je l'ai commencé en 2012, c'est sûr qu'il y avait Sugar Sammy qui faisait beaucoup d'impro à Québec. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Sammy et moi, on ne se connaissait pas. Et quand je l'ai vu en spectacle, j'ai vu des vannes à moi. Et je sais qu'à aucun moment il me les a volés. Parce que ce mec-là et moi, on réfléchit pareil. Je le sens quand je le vois sur scène.
Ouais, parfois ça peut être le hasard.
Voilà.
Ou
mais on était deux, tu vois. C'est vrai ouais. qu'il n'y en avait pas d'autres, sincèrement. Après, peut-être que j'en oublie, et pardon si c'est le cas. Mais oui, t'es flatté si on te cite. Après, je vais pas être frustré parce que c'est jamais bon la frustration et ça apporte rien.
Ouais, mais je trouve que ça manque dans les humoristes en interview qui basent leur spectacle seulement sur ça. Ils devraient.
Il n'y en a pas en vrai. En vrai, il n'y en a pas. Si tu regardes bien, sans prétention, je suis encore le seul à le faire. Parce que ce que tu vois beaucoup de vidéos d'impro. C'est souvent dans des comédie clubs.
Ouais.
Donc les mecs, il y a un public qui teste un peu, tu
non,
vois.
Mais attends, je ne le connais pas. Comme il s'appelle Redouane
Bougarba.
Ouais.
Mais Redouane, c'est pas. Redouane, il a son. Moi, alors très honnêtement, j'ai vu le spectacle sur Amazon. Okay. Je ne l'avais pas vu en live. Donc je ne sais pas si ça diffère de ce qu'il fait en live.
D'accord.
Mais le spectacle que j'ai vu sur Amazon, tu as toute une partie où il clash le premier rang.
Voilà.
Et après, il a son spectacle.
Ok, moi, j'ai jamais vu. Donc
il a son spectacle. Il parle de. Il y a un sketch sur l'avion. Il a une anecdote sur Gad. Il parle de Jamel. Il a un truc sur son enfance.
Ok.
Mais. Et de temps en temps, après, il revient. S'il y a un truc qui lui rappelle, il revient. Ouais. Alors que moi, quand je monte sur scène, j'ai la première phrase et la dernière phrase. Et le milieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Et si. J'ai un stock de blagues de plusieurs heures. Si on me lance sur ce sujet-là ou que quelque chose me fait passer par cette porte-là, je vais prendre cette voie-là
ouais.
et je vais revenir. Et ce n'est jamais le même spectacle. Si j'ai des gens qui sont venus me voir en dizaines, tu vois, j'ai des gens qui sont vraiment venus me voir 10 fois, 12 fois, 15 fois.
C'est jamais le même.
C'est que c'est pas le même.
Ouais.
Tu vois, donc encore, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai commencé tôt ce processus-là, ce mécanisme-là, j'ai encore un peu d'avance.
Oui.
Tu vois
c'est vrai.
Mais après, c'est à moi de bosser encore plus pour que ce stock de blagues soit encore plus grand. Mais c'est aussi le coût. Le sacrifice de la liberté de vouloir jouer dans des petites salles et de pas par exemple si j'avais fait mes spectacles si j'avais mis sur des plateformes mes spectacles seraient plus connus. Ouais. Donc, je pourrais moins les faire, je pourrais plus les faire, mais ils seraient plus connus. Et certains se serviraient moins.
D'accord.
Voilà. Parce que là, toi, tu parles de tendance.
Une tendance.
Moi, ouais. À la limite, ça ne me gêne pas. Moi, c'est le vol qui me dérange. D'accord. Parce qu'il y a ceux qui se servent d'une tendance, qui voient quelque chose qui leur plaît, qui se disent « Putain, ça m'inspire.
Voilà.
Et je vais en faire quelque chose qui me ressemble. »
C'est noble.
Voilà. Et il y a ceux qui disent « Ça, j'aime bien. Je vais faire la même chose. » Et ils te prennent ton sketch ou ta vanne ou ton effet et ils refont le même sans aucune recherche artistique. Ouais. Ça, c'est plus délicat déjà.
Je comprends. Et dans la nouvelle génération des humoristes, est-ce qu'il y en a qui te plaisent, qui te plaisent moins d'ailleurs, qui te font rire?
Alors, pour être tout à fait honnête,
ouais.
Je fais plus de plateau depuis longtemps. Donc, la nouvelle génération des humoristes...
Je ne suis pas trop...
Bah non, c'est quand je tombe sur des vidéos sur Insta,
ouais.
Tu vois. Mais en live, je me déplace. Franchement, je suis... Ah, je suis un vieux monsieur, hein. Je suis un vieux bonhomme. C'est-à-dire que quand je ne suis pas sur scène, ça me saoule d'être dans le public. Quand je ne joue pas au Five, ça me saoule de voir des matchs de foot. Et quand je n'écris pas des films, ça me saoule d'aller au cinéma.
Un homme de terrain, toi.
Mais je te jure, c'est un problème. Parce que du coup, j'adore faire, mais j'aime moins regarder. Ouais. Je prends de moins en moins de plaisir à regarder. Donc, je peux te... Putain, là, récemment, attends, qui j'ai vu que j'aimais bien? Putain, j'ai écrit à... J'ai écrit à des humoristes récemment, en plus, sur Insta pour dire putain, c'est, ça je le fais souvent ça.
Ouais.
Quand je connais pas quelqu'un, j'envoie, j'ai putain, j'ai, super sketch que t'as fait, chambé et tout.
Sympa,
ça je le fais tout le temps. J'ai aucun ego par rapport à ça. Attends, à qui je l'ai fait récemment? Faut que je trouve un nom quand même. Ah, il y en a un que. Non, il y en a un que j'avais trouvé hilarant qui avait fait un sketch humour noir, trash. Putain, j'ai oublié son nom. Je suis une merde, j'ai oublié les noms en ce moment.
C'est pas grave, c'est pas grave. Ça reviendra, t'inquiète.
Je suis une merde.
Dans ton spectacle, tu vas quand même fort dans les vannes, ça fait partie aussi de ton ADN. Est-ce que tu as une anecdote, Kéron, à nous raconter d'une personne ou d'un couple ou autre qui a très mal pris ton interaction?
J'en ai plein.
C'est vrai?
Ouais,
un truc où tu t'es limite t'as regretté.
Bah, si tu veux, c'est une anecdote que je raconte souvent. À chaque fois qu'on me pose cette question, c'est la pire.
Je veux pas que tu racontes quelque chose que tu as déjà raconté. Non, alors, je te sens, tu rigoles.
Non, mais je peux. Parce que si c'est un truc que j'ai jamais raconté, j'aime, mais si j'ai pas un truc de ce niveau-là.
Je te sens, vas-y.
Ça, c'est même une vidéo sur YouTube. Pour moi, c'est le climax de mal prendre une vanne. Je vois pas comment tu peux plus mal prendre une vanne. C'était à Lille.
Ok.
Le gars prend mal la vanne. Le public l'embrouille. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui est ouf.
Ah oui.
Donc, il y a une embrouille dans le public. Il part avec sa femme. On est à Lille, vendredi soir. Je reçois des mails tout le week-end pour ne mets pas la vidéo. Un, je veux des excuses. Deux, je veux pas que tu mettes la vidéo. Le mail, enfin on est samedi et dimanche, hein, tu vois, donc personne répond à son mail. La prod, ils disent, on va le traiter lundi, on va le calmer, on va discuter avec lui, il faut qu'il comprenne. Parce qu'en plus, je suis toujours dans une démarche bienveillante. Je me dis jamais, t'as pas aimé, c'est ta faute, je m'en fous.
Oui.
On parle.
T'as de l'empathie. Ouais.
Bah, bien sûr. Moi, c'est un échec pour moi quand quelqu'un n'aime pas ce que je fais dans la salle. Je me dis pas, je m'en fous, il a payé, c'est un échec. J'aimerais bien qu'il reste, qu'il aime. Mais si là j'ai agressivité, je peux pas le soutenir et je t'en supplie, reste. Ouais. Je vais changer mon style pour toi. Non, tu vois. Mais donc il est parti, donc on aurait aimé parler avec lui. Et on n'a pas eu le temps parce que lundi matin au Five, il était là. Je joue au Five à Paris le lendemain matin et à 11h, il est là. Je suis sur le terrain, je sors parce que je suis fatigué, je me repose, ouais. Quelqu'un me remplace. Je suis là. Je respire et je sens quelqu'un de truc et je me retourne comme ça et je le vois, le mec. Et je fais ouais. Il me dit ouais, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé à Lille.
Et là, tu fais.
T'as fait Lille-Paris à 8h du mat, lundi matin, frérot. C'est chaud. Déjà, tu comprends que c'est important pour lui à ce moment-là. Mais là, il dépasse les bornes pour moi. Je suis un tournoi de Five, il y a 60 personnes. Il vient étaler ma vie devant tout le monde, c'est gênant. C'est pas comme ça la vie en fait.
C'est flippant surtout.
Bien sûr. Et puis, t'attends que je te réponde à ton mail, fin. Et je lui ai dit, bah écoute, maintenant je te réponds ce que j'aurais répondu. Un, je vais pas m'excuser, parce que je considère pas être en tort. Si tu veux que je m'excuse, je vais le faire pour te faire plaisir. Mais j'en pense pas un mot. Ouais. C'est toi qui as été insultant et qui t'es mal comporté. Et deux, évidemment qu'on va mettre la vidéo. Maintenant, ce mec-là, j'ai rien contre lui. Et je lui souhaite vraiment de réussir à prendre du recul. Et là, tu vois, même le fait que je parle de lui, peut-être que lui, il va tomber sur une interview, il va dire, ouais, il parle encore de moi, ça va le chauffer et tout. C'est même pas le but. Je lui souhaite d'être heureux, ce mec-là, et la prochaine fois qu'il est dans une salle, avec moi, je pense qu'il n'aura plus me voir, mais avec un collègue, qu'il ait le réflexe de se dire « Oh, c'est bon, c'est une vanne pour faire rire tout le monde. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, personne ne me connaît. » Il ne faut pas le prendre personnellement. Voilà.
Kéron, on dit souvent que la musique rassemble, le sport aussi, l'humour également. Avec le climat actuel, est-ce que c'est vraiment le cas ? En gros, Kéron, est-ce qu'on peut rire de tout ?
Ah, la fameuse !
Ouais. Non, surtout en ce moment.
En vrai, c'est juste... Voilà, le mécanisme, il est plus simple que ça. On vit les mêmes périodes qu'avant. Les gens sont les mêmes. Il y a autant d'intolérance qu'avant. Il y a autant d'égocentrisme qu'avant. La différence, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Comme on a accès aux pensées des autres, tu sais qu'il y a des fois où tu vois un débat sur Twitter entre 7 personnes. Et moi, j'ai le recul de me dire, en fait, je ne lis pas les textes, je les vois chacun chez eux. Et je vois un daron de 40 ans en train de se vénère et je vois 5 collégiens à côté. Mais c'est toi qui... Je me dis, mais il a 40 ans, il ne se rend même pas compte. Là, lui, il ne voit pas. Au phrasé, il ne voit pas qu'il parle à des collégiens. Tu regardes la photo de profil, tu regardes 2-3 tweets, tu dis, ok, toi, tu as 13 ans max. Et tu vois l'autre mec à côté, il essaie d'argumenter et ce débat n'ira jamais nulle part. Et c'est le fait d'avoir accès aux pensées des uns et des autres et d'avoir accès tout de suite à ce que chacun veut montrer de sa vie. Et comme ce phénomène-là fonctionne, la presse aujourd'hui va se servir là. Il est là le vrai souci. C'est que quelqu'un va faire une blague sur un sujet, et ce n'est pas forcément les sujets les plus évidents. Hein. Tu sais qu'il y a des sujets qui sont... Un truc très con. Par exemple... laisse-moi trouver un bon sujet. Non, ça va encore mettre dans des sauces pour rien. On s'en fout. Je vais faire comme je fais d'habitude, je fais un sujet absurde.
Ok.
Un sujet sur les... Je fais une blague sur les câbles.
Oui.
D'accord ? Et c'est marrant, entre nous, on rigole des câbles. Voilà. J'ai des potes câbles.
Okay.
Ils rigolent à ces blagues. Avec leurs potes câbles, ils rigolent aussi. Nous, on a grandi avec des câbles depuis toujours. On respecte les câbles, mais on trouve que la forme est marrante. Et on fait des vannes sur les câbles. Mmh. D'accord ? Il y a un groupe de 3 personnes qui sont très sensibles sur le sujet des câbles. Et c'est souvent pas les câbles eux-mêmes qui sont sensibles, c'est l'entourage des câbles. D'accord ? Et eux, comme ils sont sensibles, ça fait des années qu'ils sont sur Internet, ils ont déjà des groupes sur Facebook, sur Insta, ils ont des communautés de fans de câbles. D'accord ? Et donc, quand toi, tu fais cette vanne sur les câbles, lui, il va drainer sa communauté sur toi. Et tu vas te prendre 500, tu vas te prendre allez, une centaine, même pas ouf, une centaine de messages négatif sur le fait que tu aies fait un truc sur les câbles. Sauf que la presse va relayer ça comme un événement. Bad buzz. Mehdi a fait une blague sur les câbles, ça n'est pas passé. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Sauf que Mehdi, à côté de ça, il a des contrats avec des marques, il a un métier. Et ses patrons, ils veulent pas se priver du public des fans des câbles. Donc Mehdi, on va te mettre hors d'état de nuire pendant quelques temps. Donc, soit tu n'auras pas ce contrat-là, soit on va te retirer ton émission, soit on va te mettre un horaire pourri, soit on va te lâcher. Mais à cause, le pouvoir de nuisance de ces 100 personnes, il est immense. Alors ça, c'est le mauvais côté de notre époque. Le bon côté, c'est qu'aussi, il y a des scandales qui partent de ces 100 personnes qui arrivent à faire en sorte que des voix qu'on ne peut pas entendre,
qu'on ne maîtrise pas en plus,
soient entendues. Sans ces 100 personnes-là, sur un autre sujet... Il y a des sujets sur lesquels on n'avance pas du tout, tu vois. Donc, c'est les bons côtés, les mauvais côtés d'Internet. Il faudrait juste que les décideurs soient moins en panique par rapport au public et par rapport au boycott et agissent moins avec intérêt et plus avec principe. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, les décideurs ? Quel est leur sujet, en fait ? Est-ce qu'ils veulent plaire au public quoi qu'il arrive ? Et le public, c'est une girouette, hein, ils changent tous les jours. Ou est-ce qu'ils ont des principes de « nous, on est pour la liberté d'expression, on est pour le droit de rire de tout, on est pour la satire ». On est pour les explications, on est pour le dialogue, on est pour la pédagogie, on est contre la méchanceté. Mais cette vanne sur les câbles, quelle était l'intention ? Tu sais, souvent dans les religions, les vraies personnes les plus pieuses et les plus intelligentes, elles te disent c'est l'intention qui compte. C'est pas ce que tu fais. Tu peux suivre cette règle autant que tu veux.
Ouais.
Si derrière, tu ne le fais pas pour la bonne raison, ça vaut rien. Et inversement, tu peux ne pas suivre une règle, mais si derrière, tu sais pourquoi tu ne la suis pas et qu'il y a une intention noble derrière, ça passe. Moi aujourd'hui, c'est l'intention. On ne cherche pas assez à comprendre l'intention de l'autre.
Ouais, bah c'est le manque d'empathie. On en
exactement, a parlé. C'est le manque d'empathie. On ne se met pas à la place de l'autre.
Ouais, j'y réfléchis en même temps. Mais
vas-y, vas-y.
Non, mais t'as raison. Et c'est juste que je trouve qu'on fait pas assez de prévention sur, sur l'empathie. Comment en avoir ? Comment définir ce que c'est l'empathie pour les plus jeunes ?
Non, on le faisait, nous, à Pierrefitte. Ouais. C'était de, ça s'appelle de la médiation, en fait. On faisait de la médiation, de la sensibilisation à la médiation. Et la médiation, c'est un processus où... Je digresse de fou, là. Hein.
Non, mais moi, ça m'intéresse,
sûr.
Bien sûr.
En gros, pour régler un conflit, toi et moi, on a un problème, d'accord ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en général ? On va voir un juge. On passe par la police, on va voir un juge qui décide, qui tranche. Et en général, les jugements sont rarement justes. Même quand tu gagnes, t'es rarement super satisfait. Ouais. T'es pas dégoûté, quoi, tu vois. Souvent, c'est un consensus mou en justice. Et même si, admettons, il y en a un qui est content, l'autre, il est déçu, leurs rapports ne vont pas s'améliorer. Tu vois ? La médiation, c'est un système qui consiste à donner le pouvoir à une tierce personne qui refuse le pouvoir et qui nous le rend. Mais cette tierce personne, elle est là pour nous aider à trouver une solution.
Elle est neutre.
Voilà. Donc, il y a un système, que je ne vais pas expliquer là, c'est trop long, mais il y a une formation à faire et pour aider les autres à trouver leur propre solution. Et donc, nous, à Pierrefitte-sur-Seine, quand, j'en ai parlé quand j'étais j'en parle dans Mauvaise Herbe, on a mis en place des cours de médiation et on a formé des médiateurs au sein des collèges. Donc, pendant la période de la récré, tous les élèves qui avaient des différends les uns avec les autres, ils allaient voir un médiateur et le médiateur les aidait à trouver la solution eux-mêmes. Donc, d'accord. Ça peut, ça existe. Il y a d'autres endroits où ça se fait forcément, tu vois. C'est
marrant,
une des solutions.
Kéron, tu fais régulièrement là, dans cette interview le lien, là, je fais de la psychologie de comptoir, avec ta casquette de médiateur ou d'éducateur. Et quand t'en parles, t'as l'air passionné. Est-ce que ça te manque ?
Non, parce que je le fais au quotidien déjà.
D'accord.
Même dans mon travail, je le fais sur scène chaque soir. Ouais. Je suis un médiateur.
Coacher les gens et tout.
C'est... Mais, non, mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que quand tu fais parler le public... C'est normal que ça se passe bien, mais ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Moi, je sais, je vois les visages, je vois la vie des gens, je vois que chaque blague, je suis sur un fil parce que je fais rire l'autre moitié. Mais si j'y vais encore un peu plus, je perds ces trois personnes-là. Là. Je sais que lui, il me tend un sujet qui est difficile. Si j'y vais, je perds ceux qui sont contre. Si j'y vais pas, je le perds lui et ceux qui sont pour. Si je suis neutre, je passe pour un gros lâche. Ouais. Donc, c'est un art de trouver... Les points communs entre les gens et d'appuyer sur ces points communs.
Mais je sais pas comment tu fais là. J'ai une vidéo qui me vient en tête et je vous invite vraiment à aller la regarder. C'est la différence entre les juifs et les musulmans. Tu parles de la réincarnation avec les bouddhistes.
Ouais.
Donc il y a toujours cette légèreté. Tu fais intervenir les gens de différentes confessions dans une totale bienveillance. Enfin, bravo. C'est un don.
Mais ça, c'est vraiment c'est une énergie folle et les gens pensent que on me félicite souvent pour les impros.
Ouais.
Oh, t'es trop fort en impro, merci. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce travail invisible. Si j'arrive aussi à faire mouche en impro, c'est parce que je crée un climat qui est vraiment particulier, où c'est propice à ça. Et ça, ça passe par mon travail de médiateur que j'ai fait avant. Ça m'aide énormément.
T'es épuisé après chaque spectacle ou t'as encore
Je suis mort.
T'es mort,
j'imagine. Je suis mort. D'ailleurs, souvent, je ne parle pas la journée quand j'ai spectacle.
Tu te contiens.
Pour être content de voir des gens et d'être vraiment curieux.
Eh ben, alors maintenant, on a parlé de ta casquette d'humoriste, on va parler de ta casquette, tu vois, on fait tout ton CV de réalisateur, hein, on en a parlé de ton chef-d'œuvre, un de mes films préférés,
que tu
as réalisé. Alors franchement, tout est top dans le film. L'histoire de tes parents, évidemment, le scénario, la réalisation, le casting, je pense à Laila Bekti, et même la bande originale, son.
Ah, je l'adore.
Elle est magnifique. J'ai pas réussi à la trouver sur Spotify.
Écoute, elle a disparu, je sais pas pourquoi.
Quand j'ai voulu la mettre sur ma story, quand j'ai annoncé que tu allais venir sur Burnout et...
Je sais pas, plein de gens me l'ont dit par message. Je sais pas, moi j'ai dans mon téléphone, je l'avais téléchargé à l'époque, mais je sais pas pourquoi elle a disparu, sincèrement je sais pas.
Alors, le film a fait plus de 600 000 entrées, donc pour un premier film réalisé, franchement c'est ouf, c'est une vraie success story comme on les aime. Est-ce qu'avec le recul tu réalises ?
Je vais être honnête.
Je veux que tu sois honnête.
Je vais être honnête, regarde, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Il m'a déçu ce chiffre.
Sérieux ?
Ouais. Alors, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part de... En fait, si tu veux, au moment où je fais Nous Trois ou Rien, on est tous conscients du bijou qu'on a entre les mains. Toutes les avant-premières que je fais, toutes sans exception, il n'y en a pas une, ça ne s'est pas passé comme ça. À la fin, les gens se levaient d'eux-mêmes, ils applaudissaient, ils avaient le sourire et ils pleuraient. Sans exception. Toutes les avant-premières ont commencé par... La dernière fois que j'ai ressenti ça dans une salle de cinéma, c'était intouchable. Toutes sans exception. Et moi, erreur de débutant, je me suis enflammé. Ouais. Cette scène a existé. Il y a une réunion avec la direction de Gaumont où moi, qui n'ai rien fait dans ma vie, je suis autour de la table et je leur dis, non, mais vous ne réalisez pas. Si on fait moins de 2 millions, c'est une faute collective. Je leur dis ça. Aïe, aïe, aïe. Mais qui tu es, en fait? Et je regrette c'est même pas de la prétention, c'est
un fantasme.
Pour moi, ce film, il mérite ça. Enfin, je te dis, pour moi, Nous Trop Rien, il mérite 10 millions d'entrées.
Oui.
Je le dis très honnêtement. Vu ce que les gens me disent, t'as vu comment tu en as parlé?
Bien sûr.
Tous les jours, on m'en parle de cette façon-là. Les gens utilisent que des mots comme chef-d'œuvre. Il est dans mon top 3. J'ai jamais vu ça. Et tu vois, donc, à un moment donné, tu te dis, quand on te dit ça avant que le film sorte, tu te dis, mais bien sûr, il va faire 5 millions d'entrées. Mais bien sûr. Tu vois? Et je regrette de. Je ne regrette pas d'y avoir cru, parce que si je n'avais pas cru, je ne me serais pas donné à fond. Il n'aurait pas fait 650 000 entrées. Il en aurait fait la moitié moins, tu vois. Mais j'ai cette frustration parce que je sais que si ce film avait dépassé le million, tout aurait été plus simple pour moi ensuite dans ma carrière de cinéma. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile. Tu ne montes pas un film sur le nom de Cairon seulement. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Et je sais que si Nous Trop Rien a fait un vrai score, je pourrais aujourd'hui proposer librement tous les projets que j'ai envie de proposer au cinéma. Donc moi, je suis frustré par rapport à ça, et parce que je sais ce qu'on m'avait dit avant. Après, en toute humilité, proportion gardée, etc., c'est super de faire un film à 650, et même aujourd'hui, je m'en rends compte, parce que c'est mon film au cinéma, sur mes deux sorties au cinéma, c'est celui qui a le mieux marché. Ouais. Donc au final, c'est une bonne leçon pour moi, ça apprend l'humilité, c'est bien.
T'es dur hein, avec toi-même, parce qu'on parle...
Mais t'es obligé.
Mais enfin, quand tu vois ce qui reste, et les critiques même du milieu, c'était...
Ah non, je suis content du film. J'aurais pu faire mieux encore sur le film. On aurait pu faire mieux sur plein de scènes, mais il y a des scènes que j'attendais pas et qui sont bien meilleures que ce que j'attendais, donc ça rééquilibre. Sur la promo, on a fait tout ce qu'on a pu. Je pense que tout le monde a fait de son mieux, que ce soit Gaumont, la presse, les comédiens, tout le monde. Le public.
Il a été nommé au César, ce
film. Ouais, il a été nommé, ouais.
Ouais, quand même. Ouais. Enfin, rien que ça.
Ouais, j'ai été en révélation.
Espoir.
Ouais, c'est ça, Révélation Espoir, et nommé en meilleur premier film, réalisateur.
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien, effectivement. Et mais aujourd'hui, ce score me... Je pavane pas, quoi. Je suis pas là, ouais, il a fait 650 000 entrées. Ouais, ouais. Pas du tout, parce que t'as plein de premiers films qui ont fait des millions d'entrées. Mais ça m'a appris aussi, avec le temps, à moins être sur les entrées, à moins faire attention à ces choses-là, à moins être dans les stats, tu vois. Je suis plus dans ces trucs-là maintenant.
Ouais, ça vient ternir un peu le côté un peu passion. Ou...
Bah en fait, c'est que tu peux, faut lâcher prise tout simplement. Ça ne t'appartient plus. Faut pas te dire. En fait, le succès n'est pas lié au mérite. Voilà, c'est ça. Dans tous les domaines, c'est injuste. C'est comme ça. Les meilleurs sont pas ceux qui sont au meilleur poste.
Ah mais c'est en entreprise aussi.
C'est comme ça partout. Ouais. Et quand t'es dans l'art. T'as ce truc de non, si c'est bien, ça va marcher. Non, c'est faux.
Toi, c'est. Il y a le travail, il y a le talent.
Il y a la chance, putain.
La chance, tu crois, toi?
Oh, j'y crois.
C'est pas le côté papa producteur ou maman.
C'est une chance.
Ah, ok.
Où tu nais, ouais. Quels sont tes contacts, comment on te sauve d'une sauce? Est-ce que t'as une bande d'amis ou pas? Est-ce que t'es de nature solitaire et t'es dans tes principes? Ou est-ce que tu peux un peu les laisser de côté pour tes intérêts? Est-ce que tu as la chance d'être guidé? Regarde, il y a un truc qu'on dit souvent. Tous ceux qui me parlent de... Non, mais c'est pas du piston. J'ai lancé mon entreprise. Ouais, excuse-moi. Ouais, mais non, c'est pas du piston. J'ai lancé mon entreprise comme tout le monde. Bah voilà, ça a marché. C'est pas du piston. La différence, quand tu prends du recul... Maintenant, c'est avec le recul que je me rends compte. La différence, c'est que toi, tu as lancé ton entreprise... Elle a marché, mais parle-nous de tes 4 premières entreprises qui n'ont pas marché et que tu as pu lancer et tu as eu quand même l'assise financière pour continuer et pas te casser la gueule et pour pas te retrouver dans la rue. Toi, tu as eu 5 chances. Lui, il a tout investi sur sa première chance. Si l'entreprise est flop, sa vie, elle est finie. Donc, soit il va pas se lancer parce qu'il ne peut pas l'assumer, soit il va se lancer, il va faire tapis et il va perdre. Et on parle plus de lui après. Il n'aura pas d'autre occasion de réussir pour qu'on vienne dire « Vous savez, à l'époque, j'étais à la rue et tout ». Donc ce truc de chance, on a toutes les mêmes chances, c'est faux. C'est faux, il faut se créer ces chances. Il faut se les créer.
Il faut les provoquer. Ouais.
Oui, moi ma chance par exemple, j'ai personne dans la production. J'ai personne, je viens pas de ce milieu-là. Mais j'ai une chance qui pour moi vaut 100 000 fois plus. J'ai des parents équilibrés qui m'ont bien éduqué, qui m'ont énormément aimé et qui m'ont donné confiance en moi. Et le peu d'argent qu'ils avaient, Si j'avais demandé à mes parents, je veux me produire moi-même, s'il vous plaît, investissez sur moi, ils m'auraient dit, ok, on va voir ce que tu vaux, on va organiser un showcase. Tu vois, la question, c'est méthodologie. On va organiser un showcase, on va venir voir, remplir la salle, on va se mettre au fond de salle. Si on trouve que c'est marrant, si des gens nous disent, effectivement, ça vaut le coup, tout ce qu'on gagne, on investit sur toi. On s'en fout de l'immobilier, on investit sur toi. Ouais. J'ai eu des parents comme ça. J'ai été élevé comme ça, donc je me suis... Tout à l'heure, tu disais, je pourrais gagner plus d'argent. Bien sûr, mais en jouant dans mes salles de 350 places, je gagne plus d'argent que certains collègues qui font des zéniths.
Comme quoi ?
Parce que je produis tout avec mes parents. Il n'y a pas un centime qui va dans la poche de quelqu'un et je me fais carotte. Ça n'existe plus, ça, chez moi. Il y avait, pendant des années, j'ai été dans ce cas de figure. C'est fini.
C'était quoi ton plus gros... est-ce que, je ne sais pas si tu étais un flambeur, avec ton plus gros cachet, est-ce que tu as déjà fait une folie ?
Mon plus gros cachet ?
Avec, depuis que tu es dans le milieu.
J'ai acheté un appart.
Ok. Bon, t'es plutôt réglo, ouais. tu fais attention à tes dépenses.
Ah, complètement.
Ouais, t'es pas là flambé en soirée ou je sais pas.
Alors, quoi. C'est encore pire que ça. Je ne fais pas attention à mes dépenses, mais je fais pas de soirée. Je t'ai dit, je suis un vieux monsieur. Ouais. Moi, je vais pas en boîte, j'ai pas de montre. J'ai mes vêtements de marque. Soit on me les a offerts, soit c'est des cadeaux de la marque, soit c'est des cadeaux d'amis. Je fais jamais de shopping. Je te montre l'état de mes pompes là, tu rigoles. j'ai pas de bijoux. J'ai pas de voiture.
Ouais, donc t'es plutôt économe. Enfin,
Non, je dépense. Par exemple,
fais attention, quoi.
Par exemple, tu vois, j'adore les fruits et les légumes. Ok. Écoute bien, non, mais t'es pas prêt. Derrière là, il y a un marché. Tu connais le marché couvert là. Je vais pas donner le nom. Il est juste derrière.
Oui, je vois très bien. Ouais.
Ça coûte un bras. C'est pas une vanne. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, une tomate coûte 4 fois le prix d'une tomate normale. Okay. Sauf que c'est une tomate qui est bio, qui est pas traitée, qui vient de tel pays. Elle a été ramassée par un agriculteur qui avait un gant en beige, tu vois, en velours, en daim. Voilà, c'est un truc comme ça et tout. Je dépense des fortunes dans les fruits. Je te dis, c'est pas une vanne. Hein.
D'accord.
Chaque semaine, en fruits et légumes, je mets 200 euros facile.
C'est l'extrait que je vais mettre là sur Insta. Chaque semaine, je dépense 200 euros.
Facile. Mais ça, il faut un pouvoir d'achat pour faire ça déjà, tu vois. Mais c'est pas rien de mettre 1000 balles de fruits et légumes par mois. Que pour moi, hein. J'ai pas de famille à nourrir, tu vois.
Je préfère ne pas en manger.
Donc c'est pour ça que je te dis, je suis pas dépensé dans ce sens-là, mais je ne contrôle rien, ce sont mes parents qui gèrent tout.
Et on t'a déjà proposé des projets chelous, genre télé-réalité ou...
Télé-réalité, non. Non, pas télé-réalité. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de chelou encore ? À part télé-réalité, à quoi de chelou ?
Surtout après Bref, parce que je rappelle que t'étais le petit chétan dans Bref.
Non, attends, télé-réalité, on m'a jamais proposé. On m'a proposé des...
Ou un rôle, je sais pas, un peu, je dis cliché, je sais pas, de dealer,
des rôles
de terroriste ou je sais pas quoi.
Ah bah si, En fait, si tu veux, le problème du cinéma, c'est que dès que tu fais un style de rôle, on te voit dans ce rôle-là. Donc quand j'ai fait Nous Trois ou Rien, on m'a proposé des rôles de migrant de service pendant 2 ans.
Putain.
Sans papier, truc. Il y a un film qui est sorti. Ouais, on ne va pas en parler. voilà, on m'a proposé ce truc-là. Non. Ouais, non, Et en général, quand j'ai fait un truc que j'ai déjà fait, j'aime pas le refaire.
Ouais.
Donc dans Nous Trois ou Rien, tu vois, dans Bref, j'ai fait un personnage, je ne voulais pas le refaire. Dans Nous Trois ou Rien, j'ai fait un autre personnage, je ne voulais pas le refaire. Mauvaise herbe, pareil, etc. J'essaie de faire des trucs différents. Et je ne veux pas te mentir, par exemple, tu vois, je n'ai pas la cote au cinéma. Tu vois ? Je ne suis pas quelqu'un à qui on me propose des rôles souvent, donc je me les écris.
Bah, je pense que c'est le secret, c'est la solution.
C'est un choix.
Ses propres plateformes.
C'est un choix. C'est que pour avoir les rôles, il faudrait que je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire et qui ne me ressemblent pas. Et certains aiment faire ces choses-là, donc ils ont raison, il faut qu'ils les fassent. D'autres n'aiment pas, il ne faut pas se forcer. Il faut être soi-même. Je n'ai pas beaucoup de followers, si tu regardes sur mon je dois être à 150 000, 160 000 sur Insta.
C'est pas mal.
C'est que dalle.
Ouais.
Mais regarde tous les humoristes avec qui j'ai commencé. Ils sont tous beaucoup plus hauts. Mais mes salles sont pleines depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Mon combat, il est ailleurs. Et c'est pareil au cinéma. La question, c'est même pas est-ce qu'on me propose ? Je n'y pense même plus. La question, c'est quelle va être ma prochaine œuvre ? Qu'est-ce que moi, je veux me proposer et je veux proposer aux autres ?
On arrive à la fin de cette interview, de cet échange, Kéron. Il y a une rubrique, il y a une question sous ce tarbouche, sous ce chapeau. Tu as le choix, soit tu le soulèves, mais tu es obligé de lire la question et y répondre, soit tu refuses. Alors cette question, elle peut être d'un membre de ta famille, d'un ami, d'un inconnu, auditeur, auditrice, peu importe. Allez, go.
Je suis trop curieux. C'est forcément un truc gênant, sinon tu n'aurais pas mis autant de forme.
Non, c'est jamais gênant.
C'est vrai jamais. Quel est ton rôle modèle féminin ?
Voilà.
Ça veut dire quoi ?
Bah, pour toi, c'est quoi ta femme idéale?
Ah, ma compagne de vie, tu veux dire?
Voilà.
Quand tu dis rôle, j'ai vu cinéma.
Non, c'est...
Ok. Alors déjà, il faut commencer par dire que le mot idéal, je l'enlève.
Ok.
Parce que pour moi, l'idéal, c'est pas une qualité, c'est un défaut. C'est une projection que tu t'es faite qui n'a aucun sens, qui est basée sur la personne que tu as à l'instant où tu te fais cette projection, mais tu ne seras pas la même personne quand tu vas rencontrer même la personne que tu attendais. Donc le mot idéal, je l'enlève. Pour moi, la personne idéale, c'est quelqu'un qui évolue. Donc dans mon cas, ma femme idéale, c'est une femme qui va accepter mes évolutions et qui va oser me faire part des siennes. C'est une femme qui, vu l'humour, vu la place de l'humour dans ma vie, c'est une femme qui doit pas aimer l'humour, pas rigoler à mes blagues, mais être en plus hilarante. C'est une femme qui doit... Franchement, une femme hilarante et ouverte d'esprit, tu vois, parce qu'on n'est pas figé dans la vie. Quelqu'un... Quand je n'ai pas figé, je parle pas de... je me rends compte, le mec qui fait son coming out en direct. J'étais pas dans ce truc-là du tout. Hein. Je m'en suis rendu compte en le disant. Non, mais pas figé, c'est-à-dire quelqu'un... Parce que je peux, du jour au lendemain, te dire, tu sais quoi, je veux tout arrêter... Viens, on va ouvrir une ferme en Patagonie. Ouais, ah non, ça a déjà été pris. C'est déjà pris, putain. Viens, on fait un autre truc. Il faut pas qu'il puisse me dire, attends, mais moi, ton côté réalisateur, il m'intéressait. Enfin, tu vois. Il faut que. Ouais, franchement, une femme hilarante qui a de l'empathie, c'est déjà plus qu'idéal.
Ok. Bon, ladies, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes hilarante et vous avez de l'empathie, envoyez les DM pour Kéron. Merci beaucoup, Kéron.
C'est un plaisir.
D'avoir
merci
répondu à toutes mes questions. Je rappelle que Kéron, il est toujours en spectacle Dragon au Théâtre de l'Apollo à Paris. Il reste encore quelques places. Vraiment, allez-y. Ça vaut le détour. Moi, je vais venir avant fin avril. Parce que alors, c'est la première fois où j'ai pas eu le temps d'aller voir le spectacle avant de recevoir l'invité.
Okay.
Donc, je m'en excuse, mais je vais venir et s'il te plaît, ne me taille pas.
Alors attends, je vais te donner un spoil. Ouais. Si tu viens, ce sera diffusé quand ?
Je pense que ça, c'est dans 2-3 jours. Hein.
Ok. Si tu viens la première semaine, la dernière semaine d'avril.
Ouais, ce qui m'arrange.
Voilà. Je ne dis pas quel jour, vendredi ou samedi.
Ok.
Il y a un mec dans la salle qui attend un enfant qu'il ne sait pas encore. Moi, je le sais, lui, il ne le sait pas.
Waouh.
On va lui annoncer en direct.
La grande classe, le scoop. Ok, bah, je serai là.
Avec plaisir.
Merci, Kéron. Et à la maison, si vous avez apprécié ce moment d'échange, n'hésitez pas à le partager à vos amis, vos voisins, votre famille et vous abonner à la page Burnout sur Spotify. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao.